France Inter.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Qui dit vendredi matin dit la bande indisciplinée de Grand Bien Vous Fasse. Des femmes et des hommes qui aiment, qui adorent rire et faire rire. Et j'espère que ce sera encore le cas aujourd'hui. Sinon, cette introduction sera nulle et non avenue. Mais j'ai confiance en eux. Je sais qu'avec eux, on peut rire de tout et de nous, que notre rire n'est jamais malveillant, comme si nous avions passé un pacte humoristique. L'expression n'est pas de moi, mais d'une enseignante en philosophie, conférencière et essayiste, que nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui. Bonjour Olivia Gazalet.
Bonjour à toutes et tous.
Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler du rire grâce à vous et notamment du rire au féminin. Cette journée de la femme, vous publiez un livre passionnant d'un bout à l'autre. Le paradoxe du rire, c'est aux éditions Segers. La dernière fois que vous avez ri, Olivia, c'était quand ?
Il y a une seconde, ah, avec les chroniqueurs et chroniqueuses du plateau.
Voilà, je crois que c'est un certain Grégory Cohen qui va essayer de garder son sérieux. Le temps d'une recette. Thibaut de Saint-Maurice, bonjour. Est-ce qu'il sera question de rire dans votre chronique du jour ?
Bonjour Eva, oui absolument, puisqu'on parle de rire, eh bien moi je me suis intéressée aux chatouilles.
Oh, voilà. J'adore.
Faut-il craindre les chatouilles ?
Je déteste en fait les chatouilles, mais le thème me passionne. Bonjour Guillemette Audicino.
Non mais j'adore les thèmes de Thibaut de Saint-Maurice,
c'est très bien.
Un truc de... Non mais c'est fou quoi.
C'est fou.
Les chatouilles,
mais,
j'adore.
Mais oui. Votre amie du jour, elle a un rire très communicatif.
Oh là là,
je peux le dire.
Ah oui, on est au-delà de ça. C'est une espèce de tornade rousse, ouais, qui, quand elle se met à rire ou à sourire, vous êtes littéralement scotché au mur. Allez, devinez.
On n'en dit pas plus. Bonjour Christine Lapelé-Douel.
Bonjour Eva.
Vous avez entre les mains un magnifique livre.
Oui, un livre d'une autrice, à mon sens, un peu méconnue. Enfin, trop méconnue, même. Marie Cizin. Et pourtant, elle a obtenu un nombre de prix incroyable. Mais malgré tout, elle reste dans l'ombre et je ne comprends pas
mais
pourquoi.
Mais grâce à vous, elle sera dans la lumière aujourd'hui.
J'espère bien.
Nous sommes le 8 mars, vous écoutez France Inter. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse.
France Inter. Eva Roque. Grand Bien Vous Fasse.
Bonjour Grégory Cohen.
Bonjour Eva Roque.
Votre défi du jour, pas rire en nous dévoilant votre recette, qui sera quoi ?
Alors, ce sera un
parce
riso...
qu'en fait, voilà, allez-y, voilà. Non mais dites-le, puis je vous dis ma blague après.
Ah ok, d'accord, il y a une blague.
Ouais, non.
C'est un riso... Ok, c'est déjà ça, rien que ça c'est une blague déjà, c'est magnifique. Donc un risotto, mais un risotto de petite épeautre.
Mais parce que je m'imaginais en train de rire en mangeant votre risotto, et c'est pas possible en fait, ça...
Ah non, ça serait,
ça
c'est
serait
pas
moche.
Assez... Ouh, un peu inélégant, oui, je pense que ça peut projeter.
Ce sera dans quelques minutes votre recette. Pour l'instant, place au petit plaisir de la semaine.
Au plaisir et bon amusement.
Merci.
Ah ben merci.
Alors Olivia Gazalet, je vous explique, chaque semaine, on partage nos petits plaisirs des derniers jours, à savoir un moment agréable qu'on a vécu pendant la semaine. Ça peut être un livre, ça peut être une sortie culturelle. Et pour vous, Thibaut de Saint-Maurice, aujourd'hui, c'est un livre.
Oui, c'est un livre qui est sorti il y a 2 semaines chez Michel Lafon. L'auteur, c'est Lucas Caltritti et le titre, c'est « On nous a menti sur l'écologie ». Alors, vous allez me dire « Encore un livre sur l'écologie ». Eh bien oui, mais en même temps, c'est un livre qui est complètement différent. C'est le livre qui est à la fois l'adaptation et le développement du podcast Super Green Me que l'auteur porte depuis 3 ans et dans lequel il incarne à la première personne sa propre transition écologique. Et donc dans ce livre, derrière le titre « On nous a menti sur l'écologie », il y a une sorte de magnifique travail de vérité à propos de la réalité du réchauffement climatique et aussi un magnifique travail de vérité à propos de ce qu'on peut faire, nous, chacun, chacune, individuellement. Parce que le problème, c'est face à catastrophe, c'est de se dire soit il n'y a rien à faire, on est impuissant,
exactement,
soit de dire il faut absolument tout changer, perdre les plaisirs de la vie, ses habitudes, etc. Et c'est précisément l'apport de ce livre que de nous montrer qu'il y a une sorte de voie du milieu qui est possible. Et donc voilà, j'en recommande chaudement la lecture. On nous a menti sur l'écologie, Lucas Caltritti aux éditions Michel Lafon. Moi, ça m'a fait ma semaine.
Eh ben, merci beaucoup Thibaut. Christine Lapelé-Douel, qu'est-ce qui a fait votre semaine ?
Eh bien, moi je me projette, parce qu'il faisait encore un petit peu frais, mais c'est la perspective des terrasses des cafés.
Ah, l'ouverture des terrasses de café.
Ah, de pouvoir prendre un café, justement, ou tout ce que vous voudrez, à la terrasse, avec des amis, de pouvoir entamer des conversations qui ne sont pas forcément extrêmement profondes. Mais ça, c'est un plaisir, vraiment, que j'attends avec impatience. Et savez-vous ce que disait Alphonse Allais du paradis ?
Non, on vous écoute.
Eh bien, il disait, le paradis, c'est une terrasse de café qui n'en finirait jamais.
Oh, j'adore, je vais la garder, cette phrase, pour moi. J'ai entendu quand même que vous ne buviez pas que du café quand vous alliez à une terrasse.
J'ai pas dit quoi.
Mais vous savez quoi, l'émission de jeudi avec Ali Rebéhi sera consacrée au petit plaisir des cafés, mais pas du café à boire, hein, des cafés, le plaisir qu'on a à aller se mettre notamment à une terrasse. Grégory Cohen, vous êtes d'humeur contemplative cette semaine.
Oui, alors d'humeur super contemplative. J'étais dans ma Normandie et là, bah, c'était exceptionnel. Et en pleine nuit, je suis sorti et j'ai découvert un ciel super étoilé. Et du coup, je me suis mis un plaid, je me suis allongé sous le ciel étoilé, j'ai téléchargé une application qui m'a permis de savoir ce que
toutes
je regardais.
Les étoiles, ah c'est génial.
Ah mais c'était exceptionnel. Ouais. Donc évidemment, la Grande Ourse, on réussit à peu près à la repérer, celle qui est en forme de casserole. Mais il y avait toutes les autres. Il y avait Orion. Oui, pour moi c'est facile. Casserole, c'est simple. Et il y en a beaucoup.
Oui.
C'est assez incroyable. Donc il y a plusieurs applications. Il y a Skyview, Skyguide, Stellarium, etc. À retrouver sur votre téléphone portable. Après c'est simple. Il suffit de regarder le ciel avec son téléphone
et tout apparaît. Et ouais, exactement.
C'est génial.
Alors moi, je vous le conseille de le faire avec les enfants, c'est génial. Ils adorent ça. Voilà. Ça a un peu d'intérêt avec les écrans. Alors, quant à vous, Guillemette Audicino.
Oui.
Moi, je sais ce qui vous a fait plaisir, parce que vous l'avez dit d'abord et parce qu'ensuite, je vous ai entendu chantonner dans le couloir.
I'll be like you.
Elle est partie.
Ah ouais. Alors, vous savez, c'est ce genre de moment. En fait, pour être tout à fait honnête, nous re-regardions pour la 14e fois un épisode de Mindhunter avec ma fille. Et comme dans souvent les bonnes séries, il y a des morceaux vintage qui arrivent à la fin, au générique, au milieu et tout. Et tout d'un coup, là, mais il y a eu un stop géant. C'est-à-dire, ma fille, évidemment, a chasamé le truc immédiatement. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et moi, évidemment, pleine de contentement. Je lui dis, écoute, c'était un groupe de ma jeunesse. Ça s'appelle Alan Parsons Project, APP pour les intimes. C'est un groupe de Glasgow. C'est du rock un petit peu, à l'époque, on pouvait pratiquement estimer d'expérimental, etc. Et bah, elle a, du coup, foncé dans Alan Parsons Project. Et ben moi, pareil. J'ai redécouvert ce plaisir de ce groupe qui est à la fois complètement pop, complètement planant.
Et groove. Hein.
Et groove de ouf. Mais quand on écoute cette chanson-là, parce que évidemment qu'il y a plein... il y a des chansons un petit peu plus planantes, un petit peu plus, j'allais dire, Pink Floyd-esque dans leurs morceaux. Mais celui-ci, allez bosser tous les matins en vous mettant ce morceau à fond dans les écouteurs.
Et vous êtes de bonne humeur pour toute la journée.
Ah mais un truc de dingue. J'en ai loupé un métro l'autre jour d'ailleurs.
Ah bah, en fait, on vous a vu d'ailleurs.
Je trémoussais sur le quai, j'ai loupé la rame.
Bon alors moi aussi je vais vous parler de musique, mais ça vous le savez, c'est souvent le cas quand on est ensemble. Mais pour moi c'est un concert d'élégance et de beauté qui a enjolivé une partie de ma semaine. En fait, lundi soir avait lieu la 70e cérémonie de l'Académie du Jazz, cérémonie à laquelle je n'ai pas pu me rendre pour cause de réveil trop matinal. Mais je savais et j'étais heureuse de savoir que le pianiste que vous entendez serait récompensé du prix Django Reinhardt. C'est la plus haute distinction dans l'Académie. Et il s'appelle Grégory Privat, il a 39 ans. Et son album Phénix, c'est une immense, et d'une immense élégance comme lui, subtilité, envoûtement, esthétisme, audace. Voilà les mots qui me viennent quand je pense à lui et à sa musique. Donc allez écouter Grégory Privat, évidemment il est sur toutes les plateformes. Parviendra-t-elle à me convaincre que le livre de la semaine est empli d'une aussi grande beauté? Christy Lapelet-Douelle, c'est à vous. Et ce matin, il est question d'un appartement.
Et un appartement qui se trouve dans le 20e arrondissement. Alors, je ne sais pas s'il existe encore. L'autrice dit que oui, elle y est retournée. Mais c'est un appartement qui se trouve dans une petite impasse, qui s'appelle la Villa Gagliardini. Et le livre s'appelle 10 Villa Gagliardini. Il s'agit de Marie Cizin. Cette adresse était celle donc du minuscule appartement, en fait même pas un deux pièces, à peine un deux pièces, qu'elle occupait durant la guerre quand elle était toute petite avec sa mère. Elle est née juste au moment où la guerre a débuté et donc dans cet appartement, elle était en symbiose totale avec sa mère, donc le bonheur absolu. Mais voilà que au bout de quelques années, le bonheur a été rompu. Parce que son père est revenu de la guerre. Et là, les choses ont commencé à changer, et à changer de manière, violente. Voilà. Et donc, Marie Cizin raconte ça. Alors, il y a eu beaucoup d'épisodes. Elle raconte toute son enfance dans ce minuscule appartement qui, peu à peu, devient trop petit parce qu'elle a un frère, puis une sœur. Et les parents divorcent. Et la pauvreté, le chagrin, la difficulté à devenir une adolescente prennent peu à peu la place. Mais elle se sauve avec la littérature, avec la découverte des amis, avec le lycée. Elle réussit peu à peu à s'en sortir et à découvrir qu'elle a une véritable vocation littéraire. Mais ce qui est vraiment très très beau dans ce livre, d'abord, c'est l'écriture qui est d'une simplicité absolue et totale. C'est la délicatesse et la sensibilité avec laquelle elle raconte cette enfance difficile, douloureuse. Et on est dans la peau de cet enfant. On est dans l'esprit de cet enfant, on est dans ses chagrins. Vraiment, c'est une écriture qui va droit au cœur. Alors Marie Cizin, elle a déjà écrit, c'est son thème, hein, c'est son thème principal. Elle a beaucoup écrit déjà. Elle a été couronnée de plusieurs prix, dont le prix de l'Académie française des nouvelles et le prix des lectrices de Elle. C'est vraiment une très belle écrivaine.
Et vous trouvez qu'elle est pas assez reconnue?
Alors moi, je trouve qu'elle est bon. Alors en creux, en plus, dans son livre, il y a une critique sociale et une critique féministe, parce que le père est un père maltraitant et maltraite,
oui, on avait compris dans
et maltraite la petite fille aussi.
Ouais.
Et mais elle n'appuie jamais. On est dans la découverte progressive de ce qui fait l'environnement de cet enfant. C'est douloureux et c'est en même temps joyeux, et c'est vraiment un livre absolument remarquable. Il faudrait que Marie Cizin, qui maintenant a environ 80 ans, qu'elle soit davantage connue et reconnue, parce que c'est vraiment une écriture magnifique.
J'espère que grâce à vous, un, ça donnera envie aux gens de le lire. En tout cas, moi, ça m'a donné envie. Et que deux, ben voilà, on fait un petit éclairage sur cette femme que vous aimez tellement.
Et sur son livre. Sur ses livres.
10 Villa Gagliardini de Marie Cizin. Et c'était publié aux éditions Arléa. Merci infiniment, Christilla.
Merci.
Deux femmes, il en est encore question grâce à vous, Guillemette Odissino, et grâce à votre ami.
France Inter.
Chouette, tu es Harry Potter.
Grand bien vous fasse.
Je suis Hermione Granger et...
Évite de choisir tes amis parmi les gens douteux. Je peux te conseiller.
Je n'ai pas pu résister.
J'étais obligée de mettre la musique. Oui, Guillemette Odissino. Parce que cette musique, elle nous renvoie à un des plus beaux sourires du cinéma.
Absolument.
Parce que c'est votre ami.
Et c'est mon ami aujourd'hui. Parce que, chère Eva, vous savez, il y a longtemps, une femme qui riait était considérée, alors au choix, comme une sorcière ou comme une prostituée. Hilarant, donc.
Oui, complètement.
Alors, j'ai aussi lu des études qui expliquent, de manière un peu embarrassée, que la femme n'a pas besoin de faire rire quand elle est belle. Alors, en gros, l'humour, mesdames, c'est un peu le fond de teint qui cache les imperfections. Mais alors, il y a de l'espoir, puisque d'après certains sondages, les hommes supportent de mieux en mieux les femmes drôles. Ouais, alors on rigole de l'existence même de tels sondages. Hein. Et j'aimerais bien en proposer un autre en parallèle qui demanderait aux femmes si elles arrivent à blairer les mecs qui n'ont pas un pet d'humour. Bon, alors, je m'égare, mais c'est dans ce contexte que mon amie d'aujourd'hui m'est apparue telle une évidence. Car elle est à la fois pute,
littéralement
pute, hilarante et belle à se taper contre les murs. Donc c'est la Viviane de Pretty Woman, incarnée par Julia Roberts. Alors dès le début de cette comédie romantique que seuls les Martiens, à mon avis, n'ont jamais vue, Édouard, incarné par Richard Gere, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Donc Édouard ramasse Viviane sur Hollywood Boulevard, parce qu'il est incapable de conduire sa Lotus sans faire couiner la boîte de vitesse. Alors, elle est tellement nature, Viviane, avec ses cuissardes en vinyle raccommodées avec une épingle à nourrice, qu'il finit par l'inviter à passer la semaine avec lui dans sa chambre de palace, d'homme d'affaires qui, à mon avis, n'a pas ri depuis qu'il a acheté sa première entreprise pour la démanteler.
Mais alors, on va parler du rapport homme-femme à travers le rire, avec Olivia Gazali qui est notre invitée. Mais dans le film, c'est Viviane, donc Julia Roberts, qui est drôle et pas Richard Gere.
Eh oui, et c'est à noter.
Il est triste à mourir, lui. Hein.
Oui, c'est à noter, car dans la plupart des comédies, c'est le contraire. Ici, Richard Gere, guerre, se contente. Bah attends, rigolez pas. Bon, moi j'ai mis des années à comprendre comment ça se prononce. Ce truc.
Et finalement, alors, ça se prononce comment?
Mais c'est bien.
Richard Gere. Gere. Allez, je crois. Donc, en fait, là, il se contente d'être sérieux et beau. Bon, il y parvient. Hein, là, il y a aucun doute là-dessus. Alors, Julia Roberts, elle, est un concentré de fantaisie. C'est une tournade rousse de facéties. Dans le penthouse, par exemple, elle se fait un peu, je cite, un petit pique-nique moquette, avec du champagne et des cacahuètes devant la télé, où passe d'ailleurs un épisode de la vieille série I Love Lucy, qui reposait sur le comique de Lucy Ball. Elle décide aussi d'aller, je cite, nager dans la baignoire XXL d'Edouard, et elle ulule une chanson de Prince, les yeux fermés, avant de plonger complètement dans la mousse quand il lui demande de rester plus longtemps. Quand, grâce à lui, elle découvre son premier opéra, bon, faut dire c'est la Traviata, elle balance à sa voisine de fauteuil, une vieille dame très chic, qu'elle a tellement aimée qu'elle a failli faire pipi dans sa culotte. Alors, pour ce soir d'exception, Edouard avait emprunté une parure en rubis. Alors, franchement, le rire nucléaire, mais regardez-le à nouveau, de Julia Roberts quand elle ouvre la boîte, c'est un antidépresseur, mais tellement puissant et sans ordonnance. Alors, il faut noter que dans ce palace, où tout le monde finit par aimer cette bombe qui au début est tout de même arrivée à moitié à poil avec une perruque blonde, personne ne dit jamais « elle est belle, cette fille ». Tout le monde dit oh, « elle est surprenante, mademoiselle Viviane ». Alors, l'une des répliques récurrentes du film, c'est aussi Edouard qui ne cesse de lui demander d'arrêter de gigoter. Il lui dit même « vous êtes très belle, Viviane, quand vous arrêtez de gigoter ». Alors non, Edouard, t'as rien compris. Viviane est irrésistible parce qu'elle remue, parce qu'elle te remue. Pour ne pas être considérée comme un morceau de viande, une femme doit drôlement gigoter.
Drôlement gigoter. Merci beaucoup Guillemette. La chronique est évidemment à podcaster et à partager, comme cette émission et toutes celles de la semaine. Une semaine qui a été préparée dans la bonne humeur et avec quelques éclats de rire par Claire Destacan à la réalisation, Guillaume Ficheux, Romain Leborgne, Paola Collin, Antoine Teboul, Adèle Caglar, Florian Dorimini, Benjamin Wagon à la technique. Un grand merci à toutes les personnes qui ont assuré le standard et un grand merci à Alexia Rivière, Camille Poujalaguier, Joachim Taïeb et Charles Thierry qui se sont relayés avec brio à la préparation de ces 5 rendez-vous. Merci infiniment. Valentine Chedebois a signé de son côté la programmation musicale. Dans un instant, Olivia Gazal et nous allons nous plonger grâce à vous dans la mécanique du rire. Ce sera juste après un tube signé Juliette Armanet et c'est sur France Inter.
Flèche en opale dans mon ovale, tout métal au visage pâle, drôle de fleur, un indien dans mon cœur. Flèche en platine dans ma poitrine, pointe sanguine, épaule féline, drôle de fleur, un indien dans mon corps.
Empoisonné, chatte un rêve sans hésiter.
L'Indien par Juliette Armanet sur France Inter.
Ces artistes, fallait-il que je les aimasse,
Eva Rock.
Que je les sublimasse, qu'à eux je m'identifiasse, pour que moi, petite gosse de rien du tout, vers la Olympe, je me hissasse.
Grand bien vous fasse.
Je me fusse hissé. Je me hisse aussi, enfin c'est... Enfin, c'est le
sur France Inter.
La voix de Jacqueline Maillan, c'était en 1984, extrait
merci.
De son spectacle. J'ai deux mots à vous dire, je l'aime tellement. Ah, Olivia oui. Gazalé, votre livre, Le paradoxe du rire, s'interroge sur les origines du rire, ses bienfaits, ses fonctions. Vous l'abordez comme un fait social total et vous tentez de répondre à cette sempiternelle question, peut-on rire de tout? Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que vous avez des pistes de réponses, alors qu'elle ne reste pas en l'air comme ça, cette question. En ce 8 mars, on avait envie, évidemment, de faire un focus sur le rire au féminin, dont vous parlez si bien. D'ailleurs, est-ce que cette expression que j'utilise de rire au féminin est exacte ou vous préféreriez dire rire féminin ou rire des femmes? Qu'est-ce qu'on peut dire?
Alors là, j'ai pas de préférence, j'avoue. Oui. Le rire des femmes, le rire féminin, c'est, y a pas une, enfin, je ne marque pas de différence entre les deux.
Alors, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de découvrir à quel point l'histoire du rire raconte l'histoire des relations entre les hommes et les femmes. Les femmes, elles ont toujours été l'objet de rigolades pour les hommes.
Alors. Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la longue construction des genres échafaudés par la culture patriarcale au cours des siècles, c'est l'homme qui rit et qui fait rire, et que c'est vrai que la femme est son premier objet comique, oui. On va dire.
Et son public.
Donc, et son public.
Oui, alors, ça c'est...
On va y revenir après. On va y revenir après.
Oui, alors, le rire, enfin le comique... Justement, moi je ne parlerai pas d'humour quand il s'agit de rire à l'encontre d'une catégorie quelle qu'elle soit, et a fortiori si elle est stigmatisée, si elle est déjà stigmatisée, donc par exemple comme le comique sexiste, mais on pourrait aussi parler du comique raciste, du comique homophobe, du comique islamophobe, judéophobe. À partir du moment où on cible une catégorie stigmatisée, pour moi il ne s'agit pas d'humour, il peut s'agir de sarcasme, il peut s'agir de satire, mais l'humour présuppose qu'il y a une dimension d'innocuité là-dedans, que ça ne fait pas mal, on fait semblant, c'est comme disent les enfants, c'est pour de faux, c'est pour de rire.
Voilà. J'ai été très surprise de découvrir que les femmes comme objet de rigolade, pour le coup, c'est depuis les Grecs. Vous parlez d'Aristophane dans votre livre.
Ben oui, Aristophane est bon le premier parce que c'est le premier grand auteur comique. Donc effectivement, dans une pièce qui s'appelle Lysistrata, en fait, ce sont les. On a l'impression au premier abord qu'en fait c'est une pièce un peu féministe parce qu'il dit voilà les femmes font la grève de l'amour, donc elles en ont marre de la guerre parce que Athènes est en guerre, enfin toute la Grèce est en guerre depuis trop longtemps, donc elles décident de faire la grève du sexe. Bon bah tant que vous arrêterez pas les combats, vous les hommes, nous on rideau.
Voilà.
Et en fait c'est pas du tout une pièce féministe, c'est une pièce pour dire que finalement les femmes elles-mêmes sont les plus voraces sexuellement, donc ça va leur manquer aussi. Bon, et donc, c'est pas du tout une pièce féministe. Et c'est vrai que le rire à l'encontre des femmes, c'est une des manières d'entretenir leur disqualification.
Bien sûr.
Et justement, ce que nous raconte très bien Aristophane, c'est qu'en fait, cette moquerie, elle se polarise en général sur la sexualité. C'est-à-dire, la femme est ramenée à sa désirabilité, à son potentiel érotique. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que... toutes les femmes politiques, c'est les premières cibles, parce que ce sont les femmes qui ont du pouvoir. Donc ça, c'est ce qui agace le plus certains hommes, on va dire, pas tous, mais bon. Et donc ça se focalise toujours sur leur apparence ou sur leur âge.
Oui, vous parlez de Angela Merkel.
Angela Merkel,
notamment. Mais enfin, vous en citez quelques-unes comme ça, et on voit bien les cibles. Ça cible le physique de la femme.
Oui, ou son apparence, comme la célèbre robe de Cécile Duflot, ou même Roselyne Bachelot, elle a été beaucoup moquée pour ses tenues, son âge, Brigitte Macron. Donc effectivement, on ramène toujours les femmes à leur potentiel érotique, désirable, pas désirable. Donc ça, en fait, le fait de les ramener toujours à leur physique est une manière de les disqualifier, évidemment, sur le plan intellectuel.
Thibault Saint-Maurice.
Oui, avec une forme de double peine, en encore plus violente en un sens, c'est que si ça ne fait pas rire les femmes victimes de moqueries, eh bien on leur reproche en plus de ne pas avoir
le sens de l'humour.
Voilà, de ne pas être drôle, etc. Donc il y a vraiment une sorte de double peine, j'ai l'impression.
C'est exactement ça, il y a une double peine, c'est-à-dire que par exemple, on me fait une blague un peu sexiste ou grossophobe ou que sais-je, et elle n'est pas très drôle ta vanne. Et la personne vous répond... Oh, mais t'as pas d'humour, ça va, c'est de l'humour. Et donc, en fait, on est humilié deux fois. Une première fois par l'attaque sexiste, et la deuxième fois, parce que se faire traiter de quelqu'un qui n'a pas d'humour, c'est très dévalorisant aujourd'hui. Ça veut dire t'as pas d'autodérision, t'es pas capable de rire de toi-même. Donc, c'est la double peine, c'est exactement ce que vous venez de dire.
Guillemette Audicino.
Non, mais il y a même une sorte de blague qui s'appelle telle quelle, les blagues de blonde.
Ah, j'allais le dire.
Pardon, mais ça n'existe pas. Les blagues de châtain. Hein, non, alors il y a des blagues de blonde, quoi.
Alors, je me permets, il y a le blond dans le sketch
de
Gad Elmaleh.
Si, je me retenais de le dire, j'avais peur de prendre trop de temps. Mais oui, il y a le blond. Sauf que le blond, attention, dans le très 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 bon sketch de Gad Elmaleh, effectivement, qui enfin se moque d'un blond, il s'en moque parce qu'il en est jaloux.
Exactement.
Parce que le blond est parfait.
Il est parfait.
Hein, oui. Alors évidemment qu'il satirise un peu la perfection du blond, mais c'est parce que le blond est parfait. Tandis que la blague de blonde, forcément, la blonde est idiote. Donc c'est autre chose.
Hein. Mais Olivia Gazalet, vous reproduisez dans le livre une blague de l'animateur Tex et un bout du sketch de Jean-Marie Bigard, Le lâcher de salope. Oh. J'étais effrayée à lire. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que ça soit écrit, en fait, ou ça tape encore plus fort, mais c'est effrayant. On a vraiment l'impression qu'aujourd'hui, on ne peut plus entendre ce genre de propos.
Ben oui, ça passe de moins en moins. Mais alors, ce qui est intéressant à propos des blondes, si je peux me permettre de revenir sur la... En fait, il y a une étude récente qui a montré que les blondes étaient défavorisées sur le marché du travail et de l'emploi. C'est-à-dire qu'à compétences égales, à CV égales, on a tendance à privilégier la brune, et même il y a des écarts de salaire. Ça, moi, j'étais sidérée de lire cette étude. Donc, et sachant que finalement, le comique est le seul vecteur de diffusion de cette idée de la bêtise congénitale de la blonde. Il n'y a que dans les blagues, on ne le dit pas dans la vraie vie. Ah ben, t'es blonde, t'es bête. Non, c'est les blagues.
Exactement.
Donc en fait, il faut dire que le comique n'est pas toujours anodin, il n'est pas toujours inoffensif. Donc le truc de dire... Oh, ça va, c'était une blague. Les blagues ne sont pas toujours anodines, donc en fait, elles ont un effet dans le réel. Elles peuvent causer du préjudice réel à leur cible.
Vous utilisez le terme de sexisme récréatif, d'ailleurs.
Oui, alors ça, en fait, le sexisme récréatif, c'est une idée que j'ai eue, enfin, ce concept, je l'ai emprunté à un sociologue qui a parlé de lui de racisme récréatif, qui s'appelle Addison Morea, qui est un Brésilien, un juriste, professeur de droit, pardon. Et donc, je l'ai reprise à mon compte en parlant de sexisme récréatif. C'est-à-dire qu'effectivement, sous couvert d'humour, on pense qu'on peut dire un peu tout ce qu'on veut et que, justement, le fait que l'intention comique soit là dans l'esprit du locuteur, donc celui qui fait la blague, ben, ça va suffire à abolir la charge d'agressivité qu'il y a dans le contenu. Mais en fait, c'est pas toujours le cas.
Mais alors d'ailleurs, c'est très c'est extrêmement intéressant ce que vous racontez, parce que c'est très insidieux en fait. Quand on parle de l'humour post-MeToo, on dit ben voilà, l'égalité homme-femme, ça va beaucoup mieux, etc. Donc, ce que vous démontrez, c'est qu'on peut se permettre de refaire des blagues sexistes en disant, oh, ben on le sait,
ça y est, tout va bien, c'est bon.
On peut se permettre de refaire les blagues qu'on faisait auparavant. Christine Lapelédou, je vois réagir.
Oui, alors, il y a une dimension supplémentaire qui est encore plus tordue, si j'ose dire. C'est-à-dire que quand on ne rit pas, en effet, quand on n'est pas d'accord, quand on rit pas aux blagues et qu'on dit « Ah, ça va, t'as pas le sens de l'humour », on est aussi stigmatisé, on est obligé de devenir complice, en quelque sorte, pour récupérer le truc, pour ne pas être stigmatisé, de devenir complice de la personne qui est en train de faire cette bonne blague, entre guillemets, la bonne blague. Donc c'est un troisième effet qui est vraiment pervers, celui-là. C'est comme les blagues racistes, où il faudrait en rajouter, en quelque sorte, pour être dans le coup.
Oui, être dans le coup, et pour montrer qu'on a un sens de l'humour.
Voilà.
Guillemette.
Ah non, parce que maintenant, post-MeToo, la réponse à quand on dit « Ah ben je trouve pas ça drôle », c'est pas « t'as pas d'humour », c'est « Ah là là, t'es féministe ».
Oui, c'est ça.
L'insulte
suprême. C'est encore pire. Ah ouais. De toute façon, c'est équivalent. Si t'es féministe, t'as pas d'humour. Ça, c'est sûr et certain.
Bah, bien sûr. Hein,
ça, c'est un synonyme.
Et tu es agressive.
On est coincé. Oui, évidemment. Évidemment. On est agressive.
Mais alors, d'ailleurs, je voudrais vous faire écouter l'extrait d'une série de Blanche Gardin qui s'appelle La meilleure version de moi-même, qui est toujours disponible sur MyCanal. Blanche Gardin, elle joue son propre rôle et depuis quelques temps, elle souffre de maux de ventre. Elle va chez le médecin à qui elle montre un extrait de son spectacle.
C'est que j'ai 40 ans, c'est le drame de la quarantaine. C'est-à-dire que moi, je sens que je suis foutue physiquement, je suis flinguée, je suis fatiguée. Quand il pleut, je boite, c'est fini, enfin, c'est terminé.
Vous les entendez ?
Non, un peu.
Ils sont en train de rire de vous.
Non, mais c'est moi qui les fais rire, parce que c'est moi qui me moque de moi.
Non, vous avez pas compris. Ce sont eux qui se moquent de vous. Vous vous rendez compte de ce que vous vous infligez ? Ce sont eux qui rigolent. Ils sont tristes. Ils viennent rire, ils viennent décharger toute leur énergie négative vers vous, dans une seule direction. Personne peut tenir cette charge. Vous comprenez ça ? Et là, maintenant, votre corps tire le signal d'alarme. Vous comprenez ce que je dis quand même, j'espère ?
Oui, bien sûr, je comprends ce que vous dites, mais c'est juste que c'est un peu violent. Enfin, je m'attendais pas, en tout cas, à m'entendre dire que c'était le fait d'aller sur scène pour faire rire les gens qui m'avaient créé tous ces problèmes.
Ben si.
Alors, je vous encourage à regarder la série, mais à partir de là, elle va se dire, mais j'arrête la scène, en fait. Ouais. J'arrête de devoir être comique. Et ça me fait penser... Alors, je vais pas spoiler, divulguer la fin de votre livre, Olivia Gazalet, mais vous parlez de ce pacte humoristique que je citais en introduction, parce que vous expliquez qu'en fait, il y a deux règles dans l'humour. Il faut ne pas causer de préjudice à des cibles vulnérables, hein, à quelqu'un qui se sent stigmatisé, et deux, savoir rire de soi-même. Pour vous, ce sont les deux conditions
A minima. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce pacte humoristique, il y a plusieurs paramètres qu'il faut questionner. C'est-à-dire que vous êtes devant. En fait, ce qui est compliqué, c'est qu'un même énoncé comique peut être humoristique dans un certain contexte et sarcastique et satirique dans un autre. Donc en fait, c'est assez compliqué parce que c'est un art et un art de se maintenir sur une crête très étroite. Et on bascule assez facilement finalement dans l'attaque alors qu'on pensait pas à mal forcément. Et donc en fait, il y a plusieurs paramètres à questionner. Donc qui parle, dans quel contexte, qui est ciblé, qui est présent, et dans quel état d'esprit surtout. Est-ce que c'est du premier degré, du second degré, est-ce que c'est de l'ironie, pas de l'ironie, etc. Et pour simplifier, disons que j'ai ramené ces critères, alors qu'ils sont pas du tout des critères de est-ce qu'il y a un bon rire ou un mauvais rire, parce que le rire, par définition, a vocation à bousculer la morale. Donc on n'est pas là pour... Mais si vous voulez, je pense qu'on peut dessiner une sorte d'éthique de l'humour qui consisterait, comme vous l'avez dit, donc au moins à ne pas cibler des cibles vulnérables. Alors, je m'arrête un instant là-dessus. Je pense que c'est très important l'histoire du pouvoir là-dedans, parce que se priver de moquerie, ce serait vraiment dommage.
Bien sûr.
Mais cibler les puissants, c'est sain. Pour ne rien vous cacher, hier soir, je suis allée voir le spectacle de Walidia. Bon, j'ai énormément ri. Ouais. Ben voilà. Bon, là, on est dans la satire pure, mais il s'attaque qu'aux puissants. Il n'y a pas une seule fois, il attaque. Au contraire, il prend la défense de toutes les minorités, notamment il attaque l'homophobie, ce qui est rare chez un homme sur scène. Enfin, en tout cas, moi, j'avais jamais entendu ça. Et donc, il défend toutes les cibles vulnérables. Et en revanche, les puissants, alors là, ils s'en prennent, mais vraiment plein la figure. Et donc là, pour moi, on est encore dans le cadre de l'humour. Et donc, il y a vraiment ce rapport de poids. Et puis, évidemment, la dimension d'autodérision, c'est-à-dire que si on veut rire de tout, de tous, eh bien, nous-mêmes, nous faisons partie de ce grand tout. Donc, on doit s'inscrire dans la sphère du risible et on doit commencer par rire de soi-même.
Vous avez compris, Grégory Cohen ?
Non, mais moi, alors, je veux dire quelque chose qui va peut-être... Moi, pour moi, quand on rit, on peut rire quasiment de tout. Je suis d'accord qu'en revanche, il ne faut pas qu'on aille vers quelque chose qui risque de blesser les autres.
C'est exactement ça.
Mais est-ce
ça,
qu'on considère, du coup, quand on parle des femmes, est-ce qu'on considère les femmes comme une cible vulnérable ? Et donc, on n'a plus le droit de rire. Moi, quand je suis allé voir Florence Foresti, j'ai pleuré de rire du début à la fin.
Tout le monde.
Les mecs s'en prennent plein la tête. Oui. On se retrouve dedans ou pas, mais peu importe. C'est tellement caricatural que c'en est drôle. Et à partir de là, on sait faire la part des choses entre ce qui est drôle, quoi qu'il arrive, que ce soit rire sur un mec ou sur une femme. à partir du moment où c'est caricatural et rigolo et dans un esprit qui n'est pas méchant.
Oui, mais d'où l'importance, Grégory, je pense, de ce terme de pacte, en fait. Parce que vous le savez qu'on rit de vous et elle sait qu'elle peut aller dans la caricature parce que vous allez le comprendre, en fait.
Mais je te prends, par exemple, La vérité si je mens.
Oui.
Ok ? Aujourd'hui, La vérité si je mens ou Rabbi Jacob. Ce sont des films qui font marrer la France. Si tu le reprends premier degré, et même quand tu vois par exemple une ouverture des Césars où on refait Rabbi Jacob, oui. Là on te décontextualise la fameuse scène où Louis de Funès, qui est un monstre de rigolade et qui rentre dans un contexte de début et de fin où il essaie de s'intégrer, faire semblant que, et là on a cette scène là. Si je la prends premier degré, je peux très bien dire mais en fait de quoi on se marre, en vrai. On se marre parce qu'il y a des religieux qui sont en train de danser et qu'il y a un type qui les singe.
Mais c'est ce que vous dites, Olivia Gazalé. C'est le contexte qui est extrêmement important. Contexte,
justement, il y a ce fameux sketch de Desproges qu'on appelle sketch sur les Juifs, qui est en réalité un sketch sur l'antisémitisme. Si vous écoutez les paroles au premier degré, c'est
effrayant.
C'est
bien sûr.
Ça commence par on me dit que des Juifs sont glissés dans la salle.
Ouais.
En fait, il insistait bien sur le fait qu'il n'abordait ce sketch qu'au bout d'une heure de spectacle. Mmh. Une heure qui lui avait permis de, justement, de conclure ce pacte humoristique. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas ne pas avoir compris qu'il allait se moquer des antisémites et non pas des juifs. Et donc, c'est pour ça que c'est audible. En revanche, quand le même sketch est publié sur un site d'extrême droite, antisémite, eh bien là, il perd complètement, et là, il est donné à entendre au premier degré. Et puis, si vous permettez encore une seconde, puisqu'on parle aujourd'hui des femmes et du féminin, il y a une autre référence qui est intéressante sur ce sujet, c'est Valérie Le Mercier. Ouais. Puisque Valérie Le Mercier, elle a toujours refusé la captation de ses spectacles, parce qu'elle dit, moi, je peux dire des horreurs, des trucs hyper trash, seulement, je l'ai dit, après avoir installé un climat de confiance, que je teste les premiers soirs de spectacle. Donc, dans les premières représentations, c'est justement là qu'elle établit le pacte humoristique. Et donc, en fait, les gens qui viennent voir Valérie Le Mercier, ils sont clients. Clientes, ils savent. Donc on est quand c'est pareil quand Dujardin dit des trucs vraiment énormes
dans
nous on est sur les secrétaires. On vient pour écouter les punchlines. On est client. Donc c'est ça le pacte aussi. En revanche, quand vous êtes dans une réunion et que votre boss vous balance une blague sexiste ou grossophobe devant tout le monde, là vous êtes absolument pas client. Vous avez rien demandé et en plus vous pouvez rien répondre. Donc là c'est de la violence.
C'est de la violence. Guillemette Odissino, je vous vois trépigner.
Non, mais c'est parce que je pense quand même à la sagesse populaire qui, là évidemment, le bouquin est passionnant et cette notion de pacte, elle est vraiment passionnante. Mais c'est vrai qu'il y a une phrase qui dit « on peut rire de tout, mais on ne peut pas rire de tout avec tout le monde ».
Oui.
Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire, la question, elle est de savoir quel est l'interlocuteur, quel est celui qui reçoit ou qui balance la vanne, et quel est le contexte autour. Donc en fait, c'est ça, cette notion de pacte.
Et quelle est l'intention aussi de celui qui fait la blague.
Bien sûr. Alors, dans votre livre, il y a aussi l'autre volet qui est extrêmement intéressant quand on parle des relations hommes-femmes, c'est-à-dire que vous racontez que souvent, quand on demande à l'un et à l'autre quelle qualité on attend, par exemple, si on cherche un amoureux ou une amoureuse, qu'est-ce que tu attends de l'autre ? L'humour arrive souvent dans les premiers critères. Hein. Sauf qu'on n'attend pas forcément la même chose si on est un homme ou une femme. Vous l'expliquez bien, l'homme, il aime bien les femmes drôles, a priori, mais qui rient à ses blagues. voilà, il n'aime pas trop que les filles fassent des blagues.
Oui, alors, c'est ça, cette distinction qu'il faut établir entre le rire et le faire rire.
Ah, moi, j'ai une théorie, Olivia, est-ce que vous la voulez, la mienne ?
Ah bah, bien sûr.
Parce que vous connaissez tous la phrase « femme qui rit
à moitié
dans
son lit ».
Voilà, alors déjà, la phrase est absolument rétrograde et horrible.
On parle
horrible,
de quelle moitié, en plus.
Et en plus de quelle moitié. Mais alors, moi, je renverse la proposition, cher Grégory, et je pense que « homme qui rit » n'entrera jamais dans ton lit.
Okay.
Vous êtes d'accord, Olivia ?
Bah alors en fait, ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi il y a cette espèce de discrédit sur la femme qui rit, et a fortiori qui fait rire. Alors, c'est deux choses différentes. Bah, commençons par la femme qui rit. En fait, je m'appuie là-dessus, il faut le dire, sur un livre qui est vraiment, à mon avis, la référence majeure sur la question du rire des femmes. C'est le rire de Sabine Melchior-Bonnet, Le rire des femmes, une grande historienne de la littérature. Donc, je salue vraiment son travail exceptionnel. Et à ma connaissance, c'est le seul qui parle vraiment spécifiquement de cette question. Donc, vraiment, elle est importante dans ce sujet. Et elle met en évidence que en fait, le rire des femmes offense trois qualités, trois choses qu'on attend des femmes. Il y a d'une part la beauté. Parce que ça distend les traits du visage, surtout la femme qui montre ses dents, bon, ça nous déforme, ça donne des rictus, ça donne des rides, ça fait couler le maquillage. Donc il y a la beauté. Ça offense la bienséance parce que il y a quelque chose de très organique dans le rire. Il y a, on dit d'ailleurs toutes les métaphores, ne rit pas comme une ânesse, ne rit pas comme une hyène. Donc les secousses jouissives du rire, elles ont un côté un petit peu comme ça bestial. Et puis enfin, ça offense la bienveillance dont on attend qu'une femme, qu'elle soit gentille, douce et bienveillante. Et souvent, le rire est un peu moqueur. Donc en fait, il y a ces trois offenses faites au rire, ce qui fait que le fait que des femmes comme Valérie de Mercier, Blanche Gardin, etc. Et il y en a beaucoup d'autres. Moi, j'adore Lison Daniel. Puis il y en a beaucoup d'autres. On n'a pas le temps de toutes les citer.
Passion Lison Daniel, on est d'accord.
C'est vraiment une révolution culturelle.
Oui, c'est ce que vous dites.
C'est une révolution culturelle. Et alors après, la révolution, la vraie révolution culturelle, c'est pas seulement que les femmes rient, c'est qu'elles soient reconnues comme drôles et qu'elles fassent rire. Et là, effectivement, on bascule encore dans autre chose, parce que pendant très longtemps, il fallait, comme vous l'avez dit très bien, Guillemette, la femme qui riait ou qui faisait, c'était la prostituée, c'était la sorcière. Donc, il y avait quelque chose de très vulgaire et de satanique.
Oui, de dangereux, oui.
De dangereux.
Il y a une dangerosité de la femme rieuse.
Chrissila.
Et puis, la femme qui fait rire, c'est une prise de pouvoir. Mmh. Et ça, c'est très inquiétant. Mmh. Et c'est, la femme qui fait rire ne s'en laisse pas compter.
Et c'est là où on voit que le rire devient un outil d'émancipation. C'est en ça qu'il est dangereux.
Absolument. Ouais,
il y a un super livre de Virginia Woolf que personne ne connaît, parce qu'en fait, elle l'a publié très jeune dans Le Guardian. Elle s'appelait même pas encore Virginia Woolf, elle s'appelait Virginia Stephen. Et ça s'appelle La valeur du rire. Oui. Et elle dit en fait, l'humour a toujours été refusé aux femmes, mais alors que ce sont elles qui ont le plus besoin de sa force de subversion, de sa force émancipatrice. Donc elle dit aux femmes, mais emparez-vous du rire, moquez-vous. Alors pas seulement des hommes, mais elle dit le rire, moi j'ai trouvé très intéressant, elle dit le rire affole les présupposés, il jette le discrédit sur les conformismes, il met à nu l'arbitraire des conventions sociales et il dévoile la petitesse des grands. Et moi, j'adore cette idée de dévoiler la petitesse des grands.
Rions, rions, rions et moquons-nous avec ce pacte humoristique. Je rappelle le titre de votre livre, Olivia Gazalet, Le paradoxe du rire. C'est publié aux éditions Segers et c'est absolument passionnant. Merci. Alors lui aussi, il s'interroge sur le rire. Thibaut de Saint-Maurice, nous vous écoutons avec attention.
France Inter, grand bien vous fasse.
C'est pas un truc d'intello, la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Personne n'a à vous dire ce que vous devez penser. Hein. Personne. Jamais.
Oui, parce que puisque nous parlons de rire ce matin, Thibaut, vous vous demandez s'il faut craindre les chatouilles.
Mais oui, j'ai toujours aimé cette expression craindre les chatouilles parce qu'elle indique.
Pendant que Grégory Cohen est en train de vous en faire.
Essaye de me chatouiller, voilà. Cette expression craindre les chatouilles, elle indique immédiatement qu'il y a une tension, quelque chose de pas clair, une réalité un peu plus complexe qu'il n'y paraît. Parce que normalement, on craint ce qui nous fait peur ou ce qui représente un danger. Et là, l'objet de notre crainte, ce serait donc ces chatouilles, ces guilis, comme on dit encore plus couramment. Ces petites gratouilles à la surface de la peau qui nous font frissonner, sursauter et finalement éclater de rire. Les chatouilles ne sont précisément pas censées nous faire peur ou représenter un danger. Elles nous font rire et on en veut rarement à celui qui nous a chatouillé. Qu'avons-nous donc à craindre des chatouilles ? Malgré les rires qu'elles déclenchent, nous feraient-elles courir un risque inaperçu ?
Peut-être le risque de révéler immédiatement notre vulnérabilité, c'est-à-dire la vulnérabilité de notre peau aussi. Hein.
Alors oui, c'est en tout cas l'une des toutes premières explications que l'on trouve et qui est proposée donc pour expliquer ces drôles de chatouilles. C'est celle d'Aristote dans ses bouquins de biologie qui sont intitulés « Les parties des animaux ». Pour Aristote, notre vulnérabilité aux chatouilles est à accepter comme le prix à payer de la finesse de notre peau hein, par rapport aux autres espèces animales, de cette peau qui est à la pleine surface de nous-mêmes, ainsi donc que de l'hyper-développement de notre sens du toucher. Mais l'explication physiologique, elle est un peu courte, parce qu'il ne suffit pas que l'on nous touche n'importe où pour que cela nous chatouille. Et puis, on a tous essayé déjà une fois, on ne peut pas se chatouiller soi-même.
Oui.
Alors, les nouvelles connaissances accumulées à propos du cerveau nous renseignent sur ce qui se passe quand on est chatouillé, mais elles ne nous disent pas pourquoi nous y sommes sensibles et pourquoi cela fait partie de notre condition. Et il semble donc que la présence d'autrui et de ses intentions soit nécessaire pour comprendre ce qui se joue dans les chatouilles. Alors on peut suivre cette fois l'analyse du philosophe américain Aaron Schuster dans son article passionnant que je vous recommande qui s'intitule « Philosophie du chatouillement, une sensation entre physique et métaphysique ». Voilà, les philosophes s'intéressent vraiment à tout. Schuster remarque en effet que notre sensibilité aux chatouilles est une des situations essentielles d'apprentissage de notre différence par rapport aux autres. L'enfant chatouillé, et puis qui va chatouiller à son tour, apprend par là les limites de son propre corps et la présence du corps des autres. Mais ça apprend aussi à chacune et à chacun à considérer son propre corps sous deux aspects. Le corps que l'on a et le corps que l'on est. Le corps objectif, médical, qui réagit à des stimuli. Et puis le corps propre, le corps de chair, qui au moindre effleurement est capable de frissonner et de nous échapper complètement. Et puis si on va au bout, Schuster imagine même que ces chatouilles nous apprennent ni plus ni moins qu'à manipuler la fiction, le second degré et la projection des intentions des autres. Parce qu'il y a chatouille et chatouille. Il y a la caresse inattendue, l'effleurement par la plume ou la feuille de l'arbre qui vient simplement donc chatouiller ma peau mais qui ne me fait pas éclater de rire. Et puis il y a le parent qui court après son enfant en lui disant « je vais t'attraper » et qui s'en saisit en le chatouillant et c'est là où le rire éclate. Et vous aurez remarqué que le rire éclate même avant tout contact, au moment juste où l'on dit « je vais t'attraper » et où l'on mime les chatouilles avec les mains et où donc la fiction et l'intention s'expriment. Voilà, il est sans doute là le mystère des chatouilles et de notre humanité en même temps, dans ces chatouilles qui révèlent à quel point notre âme, ou si vous préférez notre subjectivité ou notre moi, est à la fleur de toute notre peau.
J'ai trop envie de faire des chatouilles à tout le monde. Guimette.
Bon alors, d'abord, j'adore ce que vient de dire Thibault, et en fait, on pourrait aller plus loin, parce que au-delà de cet éclat de rire, etc., la seule chose en fait qu'on craint vraiment dans les chatouilles, c'est que la personne à laquelle on demande « arrête de me chatouiller » continue.
Oui.
Et ça, c'est exactement comme de l'humour lourd.
Voilà, il faut s'arrêter quand
c'est,
on dit stop.
Oui, c'est drôle 5 minutes, mais là c'est bon, ça suffit. Et quand ça suffit, ça suffit pas, c'est horrible. Voilà, donc le chatouille est
une torture.
Ça peut être une torture. Donc en fait, c'est une très bonne métaphore de l'humour en général.
Merci beaucoup Thibault. N'hésite pas à réécouter cette chronique sur l'application, le site de France Inter. Et on la partage. Avant de passer en cuisine, grâce à Grégory Cohen, la chanteuse américaine Doja Cat débarque sur France Inter.
Body bitch, you don't wanna talk. Body bitch, lips, potty zip. Stop. calling me sis, body bitch, we not akin, you do not exist to me, miss, I'm not your friend, I'ma let him wish, by me, bitch, kiss, by me, bitch, y'all be steady dick, riding, don't you piss on me, bitch, I just want my toes in the sand, 100 bands, body looking real overseas, hips, motherland, I can't even sit in my chair, zip on my pants, I did all the things I ain't need, I don't wanna dance, got a lot of things to be happy about, happy about, run my check up while they run they mouth,
run my check up,
got you cussing on a Sunday now,
on a Sunday,
run my check up while they run they mouth,
shut your goofy ass up, shut your bitch.
Chouchou par Doja Cat sur France Inter. Cher Grégory.
Cher Eva.
Impossible de se quitter sans votre recette du jour. Alors, à réaliser. Non, je sais, je bloque depuis le début de l'émission. À réaliser, à manger sans rire.
Oui. Mais, en fait, c'est, parce, c'est non, voilà, pourquoi parce, que, parce qu'il y a marqué risotto
non, ou... c'est les grains des potres. Je me dis que si on rit, tous les petits grains, ils partent.
Ah oui, c'est sûr. Mais voilà. Avec du riz aussi et avec n'importe quoi. Hein, dès qu'on a quelque chose dans la bouche, voilà. Ça marche.
Avec bon. La floraline aussi.
Bon, alors, pour réaliser cette recette de risotto aux petits épôtres, alors, le petit épôtre, pour ceux qui ne savent pas, c'est une céréale, vieille céréale ancienne, qui a été très peu hybridée, donc qui est bonne à manger, très saine, riche en calcium, très riche en magnésium et très pauvre en gluten. Donc c'est vraiment la céréale, faut y aller, c'est génial. Pour réaliser cette recette, on aura besoin de 250 g de petit épôtre, d'un oignon jaune, de 15 centilitres de bouillon de volaille, de 15 centilitres de vin blanc ou jaune, de 70 g de beurre, une cuillère à soupe de mascarpone, 3 cuillères à soupe de parmesan et un peu d'herbe fraîche. Allez, c'est parti, on émince l'oignon et on le fait revenir dans l'huile d'olive. Il faut qu'il devienne translucide. On ajoute ensuite le petit épôtre, on le fait nacrer rapidement, on verse le vin, on laisse réduire, on ajoute progressivement le bouillon chaud tout en remuant jusqu'à cuisson complète. On incorpore le beurre, le mascarpone, le petit épôtre va être bien crémeux, on ajoute ensuite progressivement le parmesan et on le termine avec des herbes fraîches. C'est aussi simple que ça, on l'assaisonne selon son goût, on sert chaud, c'est fondant, c'est crémeux, c'est une alternative au risotto traditionnel qui est beaucoup plus simple à réaliser qu'un risotto normal. On le tourne tout le temps, mais ce qui est intéressant, c'est que le petit épôtre ne va pas absorber le crémeux, ne va pas sécher, ne va pas devenir un bloc comme un risotto pourrait l'être. Donc en fait c'est
comme tous les risottos que je fais depuis la
nuit. Voilà, là avec ça, tu es sûr de le réussir.
Voilà, vous allez être obligé d'essayer Guillemette. Une recette à retrouver sur votre compte Instagram Grégory Cohen @GregoryCohenOff
avec deux F.
Merci beaucoup et j'en profite parce qu'il paraît que vous avez ouvert un nouveau restaurant.
Ouais.
Qui s'appelle ?
Il s'appelle le Hollywood Savoy.
Il faut être à Paris pour venir.
Il est à Paris, du côté de Bourse.
Bon bah, vous
si vous venez à Paris, vous invite tous. Voilà.
sur le compte de Guillemette.
Voilà, c'est ça. Envoyez vos demandes sur GregoryCohen.off avec deux F.
Vous allez recevoir un nombre incalculable de demandes d'amis et de messages
incroyable.
Sur Instagram. Merci, chers amis du vendredi. Ce fut à nouveau un plaisir de finir cette semaine avec vous. Lundi, évidemment, vous retrouvez Ali Rebéi dès 10h. Ali qui abordera un sujet extrêmement intéressant, celui de la pollution intérieure.